Nous allons donc poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur les démarches pro-libres dans l'éducation. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 50... non, pas du tout, c'est pas ce numéro-là, donc je vais pas le dire. Je sais que c'est pas le bon, je sais pas pourquoi il est noté comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez participer sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Et ce sujet long va être animé donc, par ma collègue Isabella Vanni, à qui je passe la parole immédiatement.
Merci Fred, bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui, on a avec nous Adrien Bourmont, bénévole à l'April et étudiant du supérieur en informatique, et Baptiste Lemoine, ingénieur freelance en recherche et développement logiciel, parent d'élèves, également bénévole à l'April. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tous les deux, vous êtes vus proposer, voire imposer, un service non libre et non respectueux des données personnelles, soit par votre établissement éducatif, soit par celui de votre enfant. Et vous avez alors entrepris des démarches pour alerter vos interlocuteurs sur les enjeux d'une informatique libre et loyale. Nous allons en savoir plus lors de notre échange. Donc, bonjour.
Salut.
Bonjour. Pour commencer, je vous propose de vous présenter très bien brièvement. Adrien, tu veux commencer ?
Oui, alors moi, je m'appelle Adrien Bourmont, donc je suis bénévole à l'April, entre autres à la régie de LAV d'aujourd'hui, juste avant qu'Étienne prenne le relais. Également co-animateur système du Chapril pour le service XMPP et étudiant en informatique à Paris.
Merci. Et Baptiste ?
Ouais, donc moi, je fais des sites web en tant que freelance depuis un paquet de temps. Je suis aussi bénévole au Chapril pour le service Mobilisant.
Merci beaucoup. Donc, on peut rentrer dans le vif de la question. Donc, comme je disais dans l'introduction, votre établissement ou celui de votre enfant vous a proposé, voire imposé, un service non libre, non respectueux de vos données personnelles. Donc, je veux savoir, de quel service s'agissait. Baptiste, tu veux commencer ?
Alors oui, pour ma part, c'est dans l'école maternelle de ma fille qu'on nous a imposé l'utilisation du logiciel Classroom, qui est donc un logiciel qui permet de faire un blog pour la classe et d'échanger donc avec les professeurs.
Très bien. Et quelle a été ta réaction ? Tu as compris tout de suite qu'il s'agissait d'un logiciel propriétaire qui peut avoir des problèmes aussi côté respect des données personnelles, côté RG.
Tout à fait, oui. Alors, on a commencé par avoir à l'inscription, on nous a donné notre mail pour parler entre professeurs et parents. Et ensuite, par mail, on nous a dit, tiens, inscrivez-vous là. Donc, c'était un petit peu comme Gaston Lagaffe qui dit, je t'ai fait un courrier pour te dire que je t'ai envoyé un mail. Donc ça, c'était un peu drôle au début. Et ensuite, je suis allé voir un petit peu le logiciel, en quoi il consistait. Et j'ai tout de suite vu dans mon navigateur qu'il y avait un certain nombre de trackers qui était présent et des choses qui étaient impossibles à désactiver. Donc je me suis dit, ça m'a rappelé ce que j'ai vu du RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données, et je me suis dit qu'il y avait un petit problème. Donc je suis allé un peu plus loin pour voir ça, et j'en ai alerté l'enseignante qui a ensuite demandé à ce qu'on se rende compte pour en parler.
Si j'ai bien compris, le logiciel, il n'y a pas eu de choix. Si j'ai bien compris, on vous a dit, ça c'est le logiciel avec lequel on va communiquer, c'est bien ça ?
C'est bien ça, on nous a dit, inscrivez-vous là. Alors s'il y a eu une concertation, moi je ne l'ai pas eue. S'il y a eu une proposition d'autre chose, on ne les a pas vues. On était devant le fait accompli, on va utiliser ça. Maintenant, il faut vous inscrire là pour profiter de ce qu'on va faire avec.
Et il y avait une autre façon de communiquer avec les enseignants, c'est-à-dire les courriels étaient aussi envisagés ou c'était le seul canal ?
Tout à fait, oui. Il y a l'académie qui fournit des adresses mail spéciales aux enseignants qui ne sont pas leur adresse personnelle. Comme ça, ils peuvent diffuser auprès des parents sans être embêtés pour pas être embêtés sur la gestion des contacts. Donc il y a d'autres moyens de communiquer. Il y a aussi le carnet rouge qu'on donne aux enfants qui sont ensuite transmis aux parents. Parce que quand on est dans une classe avec plein de gamins, on ne peut pas discuter individuellement à la fin des cours avec les parents comme on le ferait avec une micro-crèche, par exemple, où il n'y a que 10 personnes. Et là, on a vraiment le temps de faire la transmission de ce qui s'est passé dans la journée. Donc là, il y a d'autres moyens de communiquer. Il y avait même l'email, qui est un moyen tout à fait simple et constructif de faire des échanges. Et ce qui a été choisi, c'était donc une solution, un logiciel privateur.
Est-ce qu'il y a eu une présentation exhaustive de ce logiciel ?
Il y a... Alors non, on a dû découvrir le truc en allant sur le site. Et c'est pareil pour les professeurs, j'ai eu un retour comme quoi les enseignants ont dû se débrouiller pour apprendre à s'en servir. Ils ont eu reçu d'abord une présentation de la part de gens qui font du marketing pour la boîte de Classroom. Et ensuite, on leur a dit, bah, tiens, regardez, notre truc, il est vachement bien, c'est gratuit. Vous pouvez avoir plus de choses si vous payez. Et voilà. Donc, ils ont eu peut-être à un moment une présentation, mais c'est par un effet d'influence dans l'école que des gens se sont dit, bah, ça serait bien qu'on utilise ça tous.
Ok, bah, merci pour cette première présentation. Je vais passer la parole donc à Adrien. C'est de quoi logiciel propriétaire s'agissait dans ton cas ?
Alors nous, on a voulu nous imposer l'utilisation du logiciel Zoom. Donc en fait, tout simplement pour donner à la fois les cours, les TD, les TME, travaux machines encadrées, et également les examens. Donc tout ça a commencé d'abord par les cours. Où on nous a dit que bah, voilà, les cours auraient lieu sur telle adresse, merci de vous y connecter à l'heure. Évidemment, sans avoir présenté avant quel était l'outil, sans jamais avoir expliqué ce qu'on allait y faire exactement. Ça s'est fait vraiment très très vite comme ça, tout simplement donnant l'adresse. Donc déjà, à partir de ce moment-là, j'étais réticent à utiliser le logiciel. J'ai écrit quelques mails à mes enseignants qui ne m'ont jamais répondu. Donc le moment où j'ai commencé un petit peu à m'exciter, c'est-à-dire que je me suis dit, il va falloir que je réagisse, que j'aille plus haut. Donc j'ai envoyé un mail au directeur de l'UE. L'unité d'enseignement, c'est la matière. Donc j'ai écrit un mail et il m'a répondu assez sèchement que c'était son choix et qu'il était libre de faire ce qu'il voulait. Donc j'ai été encore plus haut et j'ai envoyé un mail à la directrice des études de mon UFR. Et bon, bah, ça, ce qui s'est passé est que au départ, elle a défendu son enseignant, et puis finalement, sous mes menaces de porter plainte auprès de la CNIL, ça a bougé et j'ai pu ensuite proposer des alternatives. Mais au départ, sans aucune concertation, ni même les syndicats des étudiants, ni même les représentants étudiants n'étaient au courant de ce choix de logiciel. Ça avait été fait en amont par les dirigeants de l'université, sans avoir consulté personne.
Est-ce que tous les professeurs ont proposé ce logiciel ?
Quasiment tous. Tous ont au moins cité ce nom-là. Certains ont décidé de faire autre chose. Après avoir été soit contactés par moi, soit en ayant eux-mêmes réfléchi. Mais tous, au moins, ont déjà cité le nom du logiciel.
D'accord. Donc, moi, ce que je voulais savoir, est-ce qu'ils vous ont expliqué, voilà, si j'ai bien compris, ils vous ont proposé, voire imposé ces logiciels sans les présenter, sans les expliquer pourquoi. Et normalement, il faut demander aussi un consentement éclairé aux personnes qui utilisent des logiciels, qui prévoient aussi l'utilisation des données personnelles. Et cette question aussi, ce consentement ne vous a pas été non plus demandé.
Et d'ailleurs, on ne m'a jamais orienté vers le délégué de protection des données ou quoi que ce soit dans ce style-là. Je ne sais toujours pas, à l'heure actuelle, qui est responsable de la collecte ou du traitement des données personnelles.
Et je crois que tu m'avais dit que tu avais essayé de le contacter.
J'avais essayé, oui. J'avais demandé à la directrice des études de m'orienter vers cette personne. Et jamais ça n'a été fait, puisqu'on ne m'a jamais répondu à ce sujet-là.
D'accord, c'est assez incroyable. En fait, je fais une petite parenthèse. Si vous allez sur Internet, je parle à nos auditeurs et auditrices, il y a des sites en fait qui expliquent, sous le site du ministère de l'Éducation nationale ou sous le site que la CNIL a consacré au numérique à l'école, à l'informatique à l'école, il y a des pages en fait qui expliquent qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données. Il explique qu'est-ce que c'est un délégué à la protection des données. Il y a des listes, en fait, avec tous les contacts, toutes les adresses de contact pour contacter son délégué. Ce délégué à la protection des données personnelles a vraiment, la fonction de conseiller, de veiller à ce que les données personnelles soient respectées. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui, sur papier, sont mises en place pour sauvegarder en fait les données personnelles des élèves et des étudiants. Mais il y a quelque chose qui bloque, visiblement. Il y a une communication qui
passe pas. Tout à fait. Il y a eu plusieurs points qui n'allaient pas. Et alors, je tiens à noter quand même qu'on nous a demandé si on voulait s'opposer, enfin, si on voulait ou pas qu'on publie des photos de nos enfants dans Classroom. Alors, ça aurait pu être n'importe quel autre logiciel. Enfin, ça aurait pu être tout et n'importe quoi, parce que la protection de l'image, bah, ça existe bien en dehors de l'utilisation d'Internet. Et alors, je me souviens plus si on me l'a demandé avant ou après que j'ai fait ma réaction par mail pour dire attention, méfiez-vous de ce truc-là quand même. J'ai repéré que ça respecte pas le RGPD, donc il faudrait peut-être que vous en parliez au supérieur. Et donc, on nous a bien demandé rayer la mention inutile entre j'accepte que qu'on publie des photos de mon enfant sur ce logiciel ou j'accepte pas. Ça on nous l'a demandé dans le carnet de correspondance. Donc, le cahier avec un petit imprimé en papier. Et c'est là que j'aurais bien aimé avoir l'historique vraiment précis de comment ça s'est passé, parce que c'était en septembre. Mais on nous a demandé, voilà, est-ce qu'on s'oppose ou pas. Et donc, en fonction de ça, il fallait ensuite qu'ils décident comment ils allaient interagir avec ce logiciel s'il y avait des parents qui s'opposaient au truc. Mais en fait, ça les a désorientés, parce que clairement, moi, j'ai marqué tout de suite, je veux absolument pas qu'il y ait des infos relatives à ma fille sur ce site et cette application. Parce qu'il y a un site et une application. Et donc, pour leur dire que c'était pas juste une lubie à moi, je leur ai fait un lien vers le rapport d'Exodus Privacy à propos de Classroom, donc de l'application.
Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est Exodus
Oui, alors Exodus Privacy, c'est une association qui examine tous les pisteurs qu'on peut trouver dans des applications. Donc eux, ils vont nous dire précisément, voilà les autorisations qui sont demandées par telle application, à quelles entreprises sont envoyées vos données, comment ça fonctionne. Tout ça, c'est des choses qu'on peut auditer relativement facilement. Et il y a bien sûr toute une partie qu'on ne peut pas auditer quand c'est privateur, à moins d'être considéré comme un criminel.
Très bien. OK. Ce que je voulais savoir... pardon, hein, j'ai eu un moment de... Parce que je suivais qu'est-ce que c'était Exodus. J'ai eu l'occasion aussi de l'utiliser sur des applications libres. Pour ce qui concerne le droit à l'image dont tu parlais, c'est quelque chose qui existe, bien évidemment, au-delà des services informatiques qu'on peut proposer aux parents d'élèves. Et le droit à l'image est très cadré, ça aussi. C'est-à-dire que normalement, pour publier la photo d'un enfant, il faut l'accord des deux parents. Donc, il faut que ce soit indiqué précisément pour quel usage l'image sera utilisée. Donc, il faut qu'il y ait un cas spécifique aussi dans le temps. Donc, il faut faire gaffe aussi. Donc, je voulais savoir est-ce que c'était fait dans les règles de l'art, la question sur le consentement pour le droit à l'image, pour ce qui te concerne.
Alors, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident parce que, voilà, du coup, l'intérêt, alors si j'ai compris bien, enfin, si j'ai bien compris le besoin qui était derrière ça, c'était de, suite au confinement, les parents voulaient voir ce que faisaient leurs enfants, ils voulaient les voir en image et ils voulaient que ce travail-là soit fait par des professeurs. Alors, au début, moi, je me dis, bon, c'est un peu bizarre comme besoin, bon, il y a des parents qui l'ont, on peut peut-être trouver des moyens de l'avoir. Mais du coup, quand on fait des rapports visuels, alors, texte visuel qui dit voilà, aujourd'hui on a fait ça, on a fait tel montage, on a appris, on a fait telle chanson, du coup il y a des enregistrements qui sont faits. Et s'il y a des enfants qu'il ne faut pas qu'ils soient inclus dans les enregistrements, c'est compliqué. Parce que la classe n'a pas une taille infinie, on ne peut pas prendre tous les angles qu'on veut. Quand on enregistre, voilà, on ne peut pas faire tout à fait ce qu'on veut. Et. Théoriquement, même la main d'un enfant qui a dit je veux pas qu'il y ait des photos de cet enfant-là, on n'est pas censé la prendre en photo si les parents s'opposent. Et bah voilà, dès qu'on fait des trucs de groupe, c'est un peu compliqué à mettre en place vraiment. Donc, même si on veut bien faire les choses, c'est compliqué à respecter.
Très bien. Je passe à nouveau la parole à Adrien qui nous faisait un petit teaser tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement, au-delà de Zoom, il y avait aussi la possibilité d'utiliser un logiciel qui est libre, respectueux des données personnelles et qui, incroyablement ou pas, il était à disposition, c'est-à-dire il était déjà installé et disponible pour les professeurs. Tu peux nous en parler plus, s'il te plaît.
Mais en fait, que le problème venait du fait que la façon dont est organisée l'université, on a deux administrations. D'abord l'administration de l'UFR, donc qui est l'unité de formation et de recherche, et l'administration générale de l'université. L'organisation générale avait décidé d'acheter des licences pour Zoom, qu'il fournissait donc à tous les UFR, donc y compris l'UFR d'informatique, de physique, de chimie ou je sais pas quoi. Et il y avait l'administration de notre UFR, celui d'informatique, qui avait décidé, dont certains membres avaient décidé de mettre en place un serveur BigBlueButton dans l'ENT, l'environnement numérique de travail de l'université.
On va rappeler brièvement ce que c'est BigBlueButton pour les personnes qui ne connaissent pas.
BigBlueButton, c'est un outil de visioconférence avec un tableau intégré, possibilité de mettre une présentation, de faire du partage d'écran, avec un chat en live pour discuter rapidement ou poser des questions. Il y avait aussi des notes partagées intégrées. Voilà, il y a plein de choses très sympas avec. Et ça avait été mis en place sur Moodle. Donc le Moodle, qui est un logiciel qui est utilisé par quasiment toute l'université que je connais. Et ça avait été mis en place. Simplement, des enseignants s'étaient dit « Oh, j'ai le choix entre les deux propositions de l'administration. » Et beaucoup se sont tournés vers la proposition de l'administration générale qui, pour eux, apparemment, paraissait plus commode. Alors que ça a demandé aux étudiants de créer un compte sur Zoom. Pourtant, avec BigBlueButton, on n'avait pas besoin de créer de compte. C'était déjà intégré dans nos mots de passe et comptes, enfin, identifiants de l'ENT. Donc, personnellement, j'ai pas compris quelle était la commodité supplémentaire, à part d'utiliser un truc américain parce que c'est américain. Voilà.
Ou parce que c'était déjà connu, ou parce que peut-être qu'il utilisait déjà à titre personnel. Mais surtout, ce que tu dis, c'est compliqué. Si, au moment où la faculté met à disposition deux solutions, les enseignants peuvent aussi avoir tendance à faire confiance aussi à ce que l'université propose.
Oui, tout à fait, puisqu'en plus l'administration générale présente ce contrat comme évidemment tout à fait légal. Il est légal, simplement il ne précise pas qu'il faudrait pouvoir consentir ou non à l'usage des données personnelles, et aucun des enseignants n'a été lire les conditions générales d'utilisation, aucun. Et aucun nous a présenté ça comme étant accepté les conditions d'utilisation du présent logiciel. Quand on nous a envoyé un lien Zoom, il n'y avait pas marqué « Attention, en utilisant Zoom, vous devrez créer un compte et donc accepter des conditions d'utilisation. » Alors moi, ça a été ma première réaction, c'est de dire « Vous me demandez de créer un compte sur un service qui dit qu'il va traiter commercialement mes données. Et si je ne veux pas, qu'est-ce que je fais ?»
Tout à fait. C'est assez incroyable parce que, si j'ai bien compris, dans les deux cas, les enseignants ont accepté cette solution sans même pas se poser trop de questions par rapport à cette question des droits, des données personnelles, de la protection des données personnelles. C'est-à-dire que, si je bien comprends, c'était un sujet qui n'était même pas dans leur radar de réflexion.
Ah bien sûr, c'est le genre de chose qui n'est absolument pas réfléchi, parce qu'il y a toute une chaîne de commandement qu'il faut suivre, en fait. Et quand on est dans l'éducation, alors de ce que j'en ai compris, c'est un peu comme l'armée. C'est faut pas tout le temps seconder les ordres qu'on nous donne au-dessus. Si on nous recommande tel ou tel truc, c'est même pas dans notre intérêt d'aller dire « Vous êtes sûr que machin, voilà, c'est direct chantage à l'emploi. » Chantage à l'emploi, c'est encore quand ça se passe bien, d'après ce que j'ai vu. Et donc voilà, questionner, remettre en cause des choses qui viennent d'une hiérarchie qui a beaucoup de pouvoir sur les gens, c'est toujours compliqué. Et ça, c'est après, même dans n'importe quel métier qui fonctionne avec le même type de fonctionnement vertical. Rechercher des choses, c'est même pas de l'ordre du possible envisageable. Et même en dehors de ça, moi je ne les blâme pas non plus, parce que je sais que c'est très... Enfin, on est sous l'eau, quoi, quand on travaille avec beaucoup d'enfants, et même quand on ne travaille pas avec des enfants ou des jeunes adultes ou des adultes, c'est hyper compliqué de faire proprement de la recherche sur tout ce qui est possible. Il faut juste qu'on ait vent d'un truc, qu'on nous le vende bien, qu'on nous dise que ça existe, rien que proposer des existences d'alternatives, c'est des choses que les gens n'ont pas.
Tu parlais de hiérarchie, tu as même évoqué l'armée comme façon de fonctionner. Pourtant, si on remonte dans la hiérarchie, le ministère de l'Éducation nationale a diffusé un document, une circulaire, oui, où il, pendant la pandémie, tout au début de la pandémie, donc on était au printemps 2020, où il faisait un focus très bien fait par ailleurs, très détaillé. Vous trouverez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui. C'était un focus à la fois sur Zoom et sur Discord. C'était pas sur Classroom, ouais, le logiciel dont tu nous as parlé. Mais voilà, c'est une circulaire qui a été réceptionnée par chaque académie et chaque académie l'a à son tour relayée. Mmh. Ça venait du ministère de l'Intérieur et c'était marqué ce type de logiciel est à proscrire.
Exactement, on vous interdit d'utiliser ce truc-là.
Alors, voilà, c'était pas marqué on vous interdit, il disait, voilà, c'est ça là toute la nuance. En français, c'est à proscrire, ça veut dire que je vous recommande pas de le faire. Après, voilà, est-ce que ça a un pouvoir impératif, légal impératif, contraignant, jusqu'à quel point, je sais pas. Mais c'est quand même assez détaillé, il y a toutes les raisons pour lesquelles il faut pas utiliser ces logiciels. Et même la CNIL a fait une page donc sur le site qu'elle consacre à l'informatique à l'école. À nouveau, vous trouvez les références sur la page de l'émission d'aujourd'hui, où c'est très très bien détaillé. Qu'est-ce que c'est le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner les enseignants, les parents, etc. Donc, les informations sont là.
Exactement. Oui.
Mais après, il y a aussi le choix des outils et puis il y a aussi le fait que chaque académie, chaque collectivité devrait aussi mettre à disposition un ENT, donc un espace numérique de travail. Et il y a aussi cet aspect, il y a quelques collectivités qui essaient de le faire dans les règles de l'art et d'autres qui n'ont pas les moyens ou la volonté de le faire. Donc il y a plusieurs choses... Je dis ça juste pour ne pas mettre tout sous les épaules des enseignants.
Bien sûr, oui.
Et puis d'ailleurs, moi je constate quand même que l'éducation nationale a essayé un petit peu de pousser vers le logiciel libre, puisqu'ils ont mis en place app.education.fr. La région Île-de-France aussi a mis en place des choses, notamment une instance Wiglobotton qui est sur l'ENT d'Île-de-France. Donc tout n'est pas non plus complètement à jeter. Il y a des choses bien qui ont été faites. Le problème, c'est qu'apparemment, il y a aussi des chefs d'établissement qui prennent des initiatives autres que ce qui a été proposé par le ministère.
Tu as très bien fait de rappeler alors app. On l'a mis dans la référence.
Fr, ouais.
Et parce que c'est quelque chose qui a été développé, c'est une plateforme qui a été développée par des agents de l'État et qui en fait chaque académie après pouvait proposer les mêmes services sur une plateforme dédiée et il y avait justement des outils complètement libres à disposition des enseignants pour leur travail. Donc une magnifique c'était quelque chose de très important pour le mouvement du logiciel libre en France et qui a vu la lumière aussi dans une période compliquée pour tout le monde pendant la pandémie. Donc c'était vraiment une très très belle très très belle nouvelle. On va poursuivre donc notre échange. On a parlé un petit peu des logiciels qu'on vous a proposés, de votre réaction, et je laissais savoir un petit peu quelle démarche vous avez mise en place. D'ailleurs, tu en as déjà un peu parlé pour essayer de décoincer un peu la situation. Parce que toi, si j'ai bien compris, tu ne pouvais pas assister au cours et tu ne pouvais même pas donner l'examen, vu que tu ne voulais pas que tes données soient commercialisées. Quoi.
Ouais, au départ, donc, je n'ai pas pu assister au cours en direct. Donc, en négociant un petit peu, j'ai dit quand même que j'avais tout à fait le droit de refuser de faire ce partage de données personnelles, en plus pour un traitement commercial. On m'a proposé de m'envoyer les cours en différé. Donc ça s'est fait pendant un mois ou deux peut-être. Donc là, on est au tout premier confinement, on est en mars de l'année dernière. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté de m'envoyer les cours, ou on m'a envoyé les cours via Zoom en fait. C'est arrivé ça. C'est-à-dire qu'on m'envoie un lien Zoom différé, qui est un lien Zoom qui contient une vidéo. Évidemment, mes anti-trackers qui sont sur mon navigateur m'ont permis d'avoir une page blanche. C'était super.
C'est un beau cours.
Donc j'ai fini par demander à des camarades de m'envoyer les cours, tout simplement. De les télécharger pour moi sur ce lien Zoom, puisque eux n'avaient pas de problème à l'utiliser, et à m'envoyer le logiciel, enfin le logiciel, la vidéo. Donc franchement, bon, c'était assez moyen. D'autres yeux qui avaient commencé à utiliser Zoom ont fini par écouter mes arguments, et certains professeurs sont tombés d'accord avec moi et m'ont proposé des alternatives. Ils ont proposé d'être sur les deux en même temps, ou alors même il y a quelques-uns qui ont carrément basculé sur le BigBlueButton. Mais parce qu'en plus, on disait tout à l'heure qu'il y avait app.education.fr pour l'enseignement secondaire, mais dans le supérieur, il y a aussi des initiatives globales que j'ai découvertes assez récemment. La semaine dernière, j'ai découvert qu'il y avait une instance BigBlueButton du CNRS qui était mise en place pour les maths et donc qui est accessible par tous les professeurs qui sont connectés au Grenater. Grenater, en fait, c'est le grand réseau internet des chercheurs et enseignants-chercheurs en France et un peu dans le monde, en fait. Et on peut, avec ces identifiants-là, se connecter sur cette instance BigBlueButton et donner des cours. Donc, ça s'appelle greenlight.lal. cloud.math.cnrs, donc je le mets là dans le salon. Donc c'est une instance BigBlueButton qui est ouverte à tous les enseignants du supérieur quand ils sont titulaires. Malheureusement, quand ils sont contractuels, ils n'ont pas toujours les habilitations pour le faire, mais en tout cas tout titulaire peut le faire. Donc tout simplement, j'ai proposé ce genre d'alternative, j'ai même proposé cette instance là par exemple, et certains profs ont été d'accord pour l'utiliser. Sinon, pour le reste, j'ai tout simplement dû demander à des camarades de m'envoyer les vidéos.
Ouais, c'est pas génial quoi, pour un étudiant de voir ses droits à suivre des cours bafoués de cette façon. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Et je laisse la parole à Fred qui connaît le titre et qui pourra vous la présenter.
Et en plus, c'est moi qui l'ai choisi. Juste avant ça, donc un soutien absolu au personnel de l'éducation nationale, et je vous encourage à écouter l'antenne libre que j'avais consacrée donc le 24 novembre dernier avec notamment trois enseignantes de Seine-Saint-Denis qui étaient intervenues par téléphone, enfin même quatre d'ailleurs je crois, voire même cinq peut-être parce qu'il y avait aussi Pablo et VX, Vincent Xavier. En tout cas voilà, on avait consacré 2 heures d'émission le 24-11-2020 aux conditions des profs dans cette période très compliquée, donc soutien absolu au personnel de l'éducation nationale. Et donc on va écouter une musique qu'on a déjà écoutée, mais je l'adore, vous allez bouger, je vous promets, vous allez bouger. Ça s'appelle Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. On se retrouve dans 4 minutes, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. We'll be right back.
Ah, je vous avais dit que ça allait bouger. Hein. Nous venons d'écouter Requiem for a Fish par The Freak Fandango Orchestra. La musique est disponible sous licence libre. Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. CC by SA. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui concerne donc les démarches pro-libres dans l'éducation nationale avec Isabella Vanni, Baptiste Lemoine, Adrien Bourmeau. Je vous repasse la parole.
Merci Fred. Donc on a présenté un petit peu la situation vécue par nos deux personnes invitées, les démarches qu'ils ont faites auprès de leurs enseignants, auprès de leur établissement. Bah, je voulais savoir un petit peu comment ça s'est terminé finalement cette expérience. Par exemple, Baptiste, quand tu as interpellé l'enseignante plus précisément, Comment ça s'est terminé par rapport à l'usage que tu voulais pas faire de Classroom?
Alors il y avait un bain de sang et tout, et non. on a discuté. J'ai commencé par faire de la recherche sur qu'est-ce que je pouvais lui proposer comme alternative. Donc,
Très bien.
Je connaissais quelques trucs du style, si on veut faire un blog, ben voilà, on peut faire ça avec plein de choses. J'ai même vu qu'il y avait des lycées qui utilisaient Mastodon pour communiquer par classe. Ils faisaient voilà, des espaces privés et tout le monde n'y avait pas accès. Il y avait Etalab qui avait mis en place un truc pour ça. Et donc voilà, j'ai
recherché. Tu peux rappeler qu'est-ce que c'est Etalab ?
Alors Etalab, c'est la section Open Data du gouvernement. Donc c'est ceux qui font data.gouv.fr. Et donc c'est un espace où on peut trouver énormément de données sous licence libre. Donc voilà, c'est par exemple à partir de là qu'on peut suivre les infos sur le Covid par le ministère de la Santé, c'est sur ce site-là. Et donc voilà, il y a plein d'administrations qui sont invitées à publier des documents publics là-dessus. Et donc voilà, j'ai fait des recherches, donc je me suis souvenu de ce que faisait Framasoft avec des Googleisons, parce qu'on peut tout à fait utiliser ces outils-là pour faire des tas de choses, que ce soit de la rédaction, de la publication, de la visio. Comme tu disais, voilà, on peut utiliser BigBlueButton, il y en a plein qui sont déjà en place, par des chatons, c'est par d'autres, donc par des collectifs de bénévoles qui mettent ces choses-là en place.
Tu as cité chatons, tu sais qu'à chaque fois qu'on dit chatons, après on est obligé d'expliquer l'acronyme.
Ah mince,
bon. Est-ce que tu es préparé?
Alors, je suis prêt. Donc c'est le collectif des hébergeurs autonomes, neutres, solidaires, voilà.
Alternatifs,
voilà, c'est ça.
Merci.
Et donc il y a plein de choses qui sont en place, qui existent, et que les gens peuvent utiliser gratuitement et le tout sans tracker dans tous les sens. J'ai même été aller chercher un peu plus loin qu'est-ce qui n'allait pas dans Classroom. Donc il y avait voilà, les bases de données sont chez Google, les médias sont chez Amazon, et ça c'est des trucs que même s'il y avait un bouton on pourrait pas les désactiver quoi, sinon le site il marche plus tout simplement.
Donc on invite tout le monde à vérifier où sont hébergées vos données, où est hébergé le service que vous utilisez. Ça peut être une bonne action à faire.
Même si c'est marqué dessus, on est conforme RGPD, c'est tout de même important de savoir que y a des boîtes qui ne peuvent pas techniquement se conformer RGPD parce qu'elles sont sur un territoire en particulier qui correspond à des lois. Il y a le Cloud Act qui oblige à donc faire de la collecte de données. Donc oui, voilà, il y a un détail sur ça. Au début, j'ai essayé un petit peu de dire pourquoi c'est important la protection des données, pourquoi c'est pas juste une contrainte qui est un peu emmerdante et tout. J'étais pas en train de sortir les documents de Snowden à la professeure, parce que je sais que c'est un truc complexe à comprendre, c'est pas évident à saisir le côté critique de la vie privée. Classroom, c'est avec un K, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, les problématiques de vie privée, c'est des sujets complexes qu'on ne peut pas expliquer en deux secondes. Voilà, quand on fait une réunion de 10 minutes avec un professeur, s'il ne connaît pas le sujet déjà, il ne peut y voir que des contraintes. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont difficiles à aborder avec le grand public. Ça demande du temps, ça demande de faire des recherches. Donc voilà, moi je fais de la recherche, mais tout le monde ne sait pas son métier. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de développer, mais ça prend du temps.
Par ailleurs, je me permets de dire que des formations sont prévues effectivement pour les enseignants pour qu'ils puissent justement appréhender les enjeux liés à la protection des données personnelles. Tout à l'heure, on avait presque l'intention d'être un peu polémique avec les enseignants avec lesquels vous avez parlé, mais en fait, c'est quelque chose, comme tu disais, ça demande du temps. Et il y a des formations qui sont prévues, mais quand les enseignants peuvent participer à ces formations, c'est compliqué aussi. S'ils participent à des formations, ils doivent être remplacés. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait assez de réservistes, entre guillemets, pour pouvoir les remplacer dans les classes. Donc, en fait, voilà, il y a des choses qui sont très bien sur papier, mais après, il faut donner aussi aux enseignants la possibilité de s'approprier de ces informations. Et,
pour ça, il faut donner des moyens à l'éducation, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop dans notre pays, de manière globale. Il y a même les enseignants qui n'ont pas le droit de dire du mal de comment c'est géré dans leur ministère. Voilà, donc il y a des lois comme ça qui empêchent les gens d'être informés ou de communiquer librement sur qu'est-ce qui se passe mal dans leur truc. Donc communiquer sur comment ça se passe mal, c'est un peu le point de départ de toute amélioration. S'il faut déjà se rendre compte, il y a un problème. Et si on n'est pas plein à s'en rendre compte, c'est impossible de faire avancer les choses, quoi. C'est David contre Goliath, et quand on est dedans, alors c'est peut-être plus facile de faire avancer les choses, mais de mon point de vue extérieur, il faut déjà comprendre comment ça marche pour savoir à qui s'adresser. Et ensuite, trouver les bonnes formules pour trouver les bonnes infos, communiquer avec les bonnes personnes. Et ça, c'est pas évident. Alors, dans un premier temps, quand j'ai dit ça, enfin, quand j'ai fait mon retour à la professeure, elle s'est sentie tout de suite accablée, comme quoi elle participait à faire un truc absolument horrible et que c'était atroce ce qu'elle faisait en forçant les gens à utiliser ça. Et elle était prise entre deux feux, parce que d'un côté, elle voulait répondre à un besoin des parents, et de l'autre côté, il fallait qu'elle fasse un truc en plus de ses heures de travail pour répondre à ce besoin. Et là, c'est comme si je lui disais ce que vous faites, c'est criminel, c'est vraiment pas sympa.
Je me suis dit que tu n'as pas vraiment utilisé ces termes. Je pense que tu as été. Au contraire, tu étais très propositif. Le fait de chercher aussi des alternatives, de lui dire qu'il existait d'autres choses, d'y prendre le temps de parler avec elle.
C'est une démarche propositive. Je lui ai dit, c'est pas vous que j'accuse. J'essaie de voir si c'est possible de faire autre chose. Voilà, au niveau même contrainte légale, je ne sais pas si elle a le droit d'utiliser d'autres choses. Alors, ce que j'ai fait, c'est m'orienter vers d'autres gens qui connaissent un peu mieux le métier de l'éducation. J'ai demandé au sein de l'asso Framasoft, j'ai demandé sur Mastodon aux gens que je connais pas, j'ai demandé un peu partout qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne. Et donc il y en a qui m'ont dit tu peux contacter le délégué de la protection des données, tu peux voir le ministère de l'Académie de Versailles, l'Académie machin, de ce que tu veux. Et eux, ils font des recommandations. Donc c'est-à-dire qu'ils n'imposent pas aux gens d'utiliser telle et telle solution, ils leur disent vous pouvez faire ça. Si vous ne faites pas, tant pis, débrouillez-vous. Et même si vous voulez utiliser, débrouillez-vous. Parce qu'apparemment, les professeurs, ils se retrouvent tout seuls quand ils adoptent un logiciel. Ce que me disait l'enseignante, c'est que pour prendre en main le truc, ça lui a pris 5 heures le premier jour. Elle s'est retrouvée à minuit à essayer de mettre en place les photos, d'écrire les trucs, de comprendre comment configurer le truc. Et elle était vraiment toute seule.
Non, elle était très volontaire, finalement. Elle voulait faire quelque chose de bien. Voilà. C'est juste que elle manquait d'informations sur l'importance de faire attention à ce qu'on utilise. Je redonne la parole à Adrien pour savoir un petit peu comment ça s'est terminé finalement cette aventure. Est-ce que tu as réussi à trouver le bon interlocuteur ou la bonne interlocutrice? Est-ce que tu as réussi finalement à obtenir de ne pas utiliser Zoom?
Alors moi en plus c'était pas vraiment le même référentiel, parce que je suis dans une université qui parle d'informatique, donc c'est des profs qui font de l'informatique au quotidien, certains sont des chercheurs, c'est leur domaine. L'une des UE où c'était le plus compliqué, donc unité d'enseignement, la matière, où c'était le plus compliqué d'obtenir un résultat, ça a été une UE de réseau, une UE même de technologie du web. Du coup, j'allais pas leur apprendre ce que c'était que le traçage, ou est-ce que c'était qu'un cookie, ou enfin bon, ils savent tout ça, c'est leur métier. Et justement, c'est ça apparemment qui les a le plus crispés, c'est que je viens de leur dire que c'était pas conforme à ce que moi je voulais, que j'étais pas d'accord de partager mes données personnelles avec ces outils-là, et que eux me disaient moi j'ai choisi ça, et je le fais en connaissance de cause puisque c'est mon métier.
Et conséquence ça, à qui on s'adresse
pour justement pouvoir... C'est bien le problème, puisque j'ai jamais trouvé de représentant, enfin de délégué des données personnelles. J'ai la seule chose que j'ai pu faire, c'est aller menacer la directrice des études de poser une plainte. Ce qui s'est passé, c'est que finalement elle a entendu raison, elle a été parlée à l'enseignant, et j'ai obtenu ensuite un arrangement. L'enseignant m'a dit uniquement pour l'examen, parce que là c'était dans le cas d'un examen, on voulait me faire passer sur Zoom, donc j'allais pas pouvoir faire un examen différé. Donc là on m'a fait oui, ok, on va essayer de trouver un arrangement, et j'ai réussi à passer seul l'examen sur BigBlueButton pendant que tout le monde était sur Zoom.
C'est-à-dire que l'enseignante, en fait, elle a pas réagi à tes arguments, elle a réagi à la menace, de plainte.
La directrice des études. Et elle a été ensuite voir l'enseignant de CTUE qui, lui, a décidé de suivre ce qu'on lui disait, c'est-à-dire évitons la plainte, faisons passer l'examen parce que là, il n'y a pas le choix, et puis ensuite, on reviendra sur Zoom pour les cours et il se débrouillera, comme avant. Donc là-dessus, ça s'est résolu comme ça, j'ai pu passer mon examen, j'ai eu mon lieu, et tout va bien. Maintenant, c'est pas fini, ça continue. Là, actuellement, je suis encore en train d'envoyer des mails pour dire je ne suis pas d'accord d'utiliser Zoom. Je suis encore en train d'essayer de convaincre des professeurs d'utiliser autre chose qu'un outil propriétaire qui, en plus, demande le consentement à l'utilisation commerciale de données personnelles. J'y arrive petit à petit, il y a certaines UE qui m'ont dit ok, mais j'ai encore des UE actuellement qui veulent m'obliger à utiliser Zoom, même Discord. Alors là, franchement...
Est-ce qu'on peut dire de quoi il s'agit pour Discord? Alors,
Discord, c'est tellement éloigné du principe même de l'éducation que je ne sais pas ce que ça fout là. C'est censé être un truc de chat pour les jeux vidéo. C'est vraiment rien à voir. Oui, je vois une question d'Étienne. Effectivement, j'ai sollicité les syndicats. La réponse a été « on s'en fout de ton truc, nous on veut revenir en cours, en présentiel ». C'est tout ce qu'on m'a répondu.
Oh, pas cool.
Ouais. Donc, au moins une petite victoire, on peut dire. C'est-à-dire que tu as quand même obtenu de faire l'examen sur la plateforme BigBlueButton. Pour ce qui concerne Baptiste, est-ce que tu as pu obtenir quelque chose?
Ce que j'ai obtenu, c'est qu'au final, en invoquant le droit à l'image, l'enseignante ne prenne pas de photos vraiment reconnaissables des enfants pour montrer, pour publier des photos sur Classroom. Donc ça, c'est pas vraiment une victoire, parce qu'au final, tout le monde a été obligé de s'inscrire et va rester dessus, parce que l'enseignant continue de publier des choses dessus.
Donc toi aussi, tu as finalement ouvert un compte sur cette plateforme?
Alors moi, non, mais bon... moi, ma fille, je peux faire des photos moi-même. Quoi.
C'est... Oui, bien sûr.
Voilà. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup moins de précautions quand on va se diriger vers un logiciel qui est tenu par une entreprise qui pèse 1,4 million d'euros que quand on fait intervenir un photographe dans une école. Quoi. L'enseignant, je leur ai dit, moi, j'ai une entreprise, je permets de publier vos photos. Ok, c'est cool. C'est quoi votre entreprise? C'est moi. C'est moi, je fais des photos, je publie sur mon ordinateur. Vous mettez les photos des enfants sur mon ordinateur, ça va bien se passer. Je pense que n'importe qui paniquerait si on lui disait ça. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein, mais voilà, il y a des choses, il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et ça, il faut arriver à le reconnaître. C'est comme l'étendue de notre ignorance. Enfin, ça, c'est pour n'importe qui. Hein, même si on est expert dans un domaine, on ne peut pas tout savoir. C'est pour ça que c'est important de pouvoir communiquer des infos à plusieurs et de remettre en question ce qu'on sait, enfin, la méthode par laquelle on prend des infos.
À propos de communiquer les infos, pour l'instant, on a parlé des enseignants, mais il y avait d'autres personnes qui pouvaient être des alliés dans vos démarches, c'est-à-dire les autres parents d'élèves pour toi, Baptiste.
Exactement.
Ou les autres étudiants pour ce qui concerne Adrien.
Alors oui, et pour le coup...
Avez-vous fait des démarches auprès de
exactement,
de
est-ce qu'on a été s'entraider avec d'autres parents d'élèves? Et pour ma part, j'ai pas trop pu, parce que du fait des conditions sanitaires, les gens s'évitent le plus possible le matin et le soir.
Donc ça aide pas.
Donc voilà, on comprend, hein, mais voilà, après, nous on a le mail de l'école, mais on n'a pas les contacts des autres parents. En plus, comme on vient d'arriver dans la ville, les autres parents, on les connaît pas. Donc... l'isolement est vraiment très fort et il y a même des gens qui reconnaissent que ça cause des problèmes psychologiques à l'échelle mondiale qui sont sans précédent. Et de fait, de cet isolement, il y a des choses normales, enfin des choses qu'on doit obtenir normalement, comme protection des données, machin. Tout ça, c'est hyper compliqué. J'avais vraiment l'impression de partir en croisade pour un truc hyper banal, en fait. Rien que de dire, j'ai pas envie qu'on se serve de tel truc pour publier des infos sur ma fille. Et tous les parents devraient pouvoir demander ça et que ce soit entendu.
Est-ce que tu as identifié un canal possible, potentiel de communication pour parler avec les autres parents? Je ne sais pas s'il y a...
Alors oui, j'ai du coup identifié d'autres choses, parce qu'au début de l'année, on s'est un petit peu mobilisé avec les autres parents pour ouvrir une nouvelle classe. Parce que quand il y a 31, 32 élèves par classe en maternelle, c'est compliqué pour les professeurs et pour tout le monde. Et donc ça n'a pas abouti. Mais on a pu ouvrir le dialogue avec d'autres parents, comme ça, et avec la FCPE. Donc la FCPE, c'est un genre de syndicat des parents qui se bat donc pour des choses diverses et améliorer la qualité de vie dans l'école. Et donc eux, voilà, je leur ai mis en place un newsgroup, alors une liste de diffusion, pour communiquer en gagnant beaucoup de temps sur la gestion des adresses. Et on a fait un petit peu comme ça communiquer. Mais voilà, j'ai pas été plus loin, parce que voilà, il y a toujours une dynamique de pouvoir et d'influence dans les groupes. Et si je disais, bah, c'est moi qui ai demandé qu'on ne voit pas la photo de vos enfants sur tel truc, eux, ne comprenant pas du tout le souci des protections des données, c'est ce qui arrivait en réunion de parents d'élèves, hein. Ils ont dit, oh, c'est dommage, on n'aura pas des photos de nos gamins et tout.
Ouais, c'est toute la difficulté de promouvoir des outils respectueux des données personnelles, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte aussi les sensibilités, le manque d'informations de ses interlocuteurs. Il faut amener les choses de la bonne façon, étape par étape. Et peut-être que tu ne voulais pas tout de suite rentrer...
voilà, je ne voulais pas tout de suite me brouiller avec tout le monde, donc... À ce moment-là, je me suis dit, bon, je ne vais pas l'expliquer en deux secondes.
Oui, je me permets juste d'intervenir parce que je vois une question sur le salon web et j'ai vécu, enfin, ma fille a vécu exactement la même chose. Donc, c'est Cricri qui dit, enfin, une question, une remarque. Le pire, c'est que certains enfants peuvent avoir honte de parents qui ne font pas comme tout le monde. Je rappelle que, avant de vous laisser savoir si tu as eu le même cas, qu'un jour, ma fille au téléphone s'excusait d'utiliser LibreOffice. Alors qu'en fait, normalement, c'était une obligation dans l'éducation nationale. Donc, est-ce que tu as le même cas que donc, ce que signale Cricri sur le salon web?
Eh ben, j'aimerais bien, mais je n'ai pas du tout de contact avec les autres parents.
Oui. Donc... Comme tu disais, tu viens d'arriver dans l'école, d'accord.
Voilà, ça fait 6 mois qu'on est dans l'école. Enfin. Et on n'a toujours pas trop pu discuter avec les autres parents. Quoi.
C'est clair que le contexte sanitaire aujourd'hui n'aide pas et espérons que ça puisse être plus facile bientôt. Adrien, par rapport à voilà, la recherche de potentiels alliés, est-ce que tu as fait des démarches dans ce sens?
Oui, j'ai cherché. J'ai beaucoup cherché. Hein. Je suis tombé sur le mur de WhatsApp. C'est-à-dire que vraiment, je me suis aperçu que tout le monde se parlait via WhatsApp, via Discord, via tous les trucs que je veux pas utiliser et que je refuserai toujours d'utiliser. J'ai, grâce à un professeur qui a fait une erreur, c'est-à-dire qu'il a envoyé un mail sans cacher les adresses de tous les autres élèves, j'ai pu créer une liste de diffusion. Et donc j'ai pu envoyer ma réponse au professeur qui disait « Nous allons utiliser Zoom ». J'ai envoyé la réponse à tous les élèves en même temps. Je me suis donc fait connaître. Parce qu'en fait, ils n'étaient même pas au courant de mon existence, alors que ça faisait peut-être 6 mois que je faisais mes démarches avec les enseignants. J'ai pu exposer mon point de vue. J'ai eu quelques réponses bienveillantes. Quelques-uns qui étaient d'accord avec moi, mais ne voulaient pas se lancer dans une croisade. Et puis, carrément, des réponses désobligeantes me disant que j'étais indésirable et que je les empêchais d'étudier et d'avoir leur lieu. Bon, moi, je n'aurais pas répondu à ces gens-là, hein, mais... Je me suis dit, peut-être qu'il y aurait peut-être des gens avec qui je pourrais... Non, finalement, je n'ai pas pu avoir d'alliés sur ce coup-là. Si j'avais dit que je voulais rouvrir les cours au présentiel, là, par contre, j'aurais eu 100% d'alliés. Mais non, les protéger...
Ça manque beaucoup.
Les protéger d'une utilisation commerciale de leurs données sans consentement, non, ça ne touche pas assez. Et on est en informatique.
Voilà,
je rappelle ça quand même.
J'ai failli le dire, on est quand même dans des études d'informatique. Donc, théoriquement, on devrait être les plus au courant des enjeux par rapport à l'utilisation de logiciels propriétaires ou de logiciels hébergés par des entreprises américaines, etc. Donc j'imagine que ça a dû être un peu frustrant quand même.
Alors heureusement, j'ai des enseignants, certains, hein, d'ailleurs la plupart du temps ceux qui travaillent dans les domaines de l'architecture ou du système d'exploitation, qui sont les plus sensibilisés aux logiciels libres. Certains qui voilà, sont à fond derrière la FSF, même un qui est membre de la FSF, je crois.
FSF, donc la Fondation pour...
La Fondation pour le logiciel libre.
Très bien.
Américaine, hein, Fondation américaine. Donc certains qui étaient vraiment à fond derrière moi, qui m'ont dit « Super, on te soutient ». Par contre, voilà, pas plus que ça. On te soutient verbalement, ça ne veut pas dire qu'on va aller voir notre collègue enseignant pour lui dire « Tu ne pourrais pas faire un effort », ça non.
Soutien moral. Voilà, bah
soutien
oui,
moral.
Ça aussi, c'est dommage, parce que
c'est
comme toi, tu as fait de la promotion du
oui,
logiciel libre aussi, de la sensibilisation. Entre collègues aussi, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir des démarches de ce sens.
Mais ça, c'est le problème de cloisonnement qui existe beaucoup dans l'université, qui va de pair d'ailleurs avec l'autonomie des universités. Hein. C'est qu'en plus d'être complètement autonome du ministère de l'éducation, enfin de l'enseignement supérieur, il y a des gros conseils d'administration qui dirigent les universités. En plus, les UFR sont complètement cloisonnées entre elles, les unités de formation. Et dans les UFR, les UE sont elles-mêmes un peu cloisonnées. C'est-à-dire qu'on a des enseignants qui ne parlent pas beaucoup entre eux, certains qui sont dans des laboratoires différents. Du coup, bah, ces laboratoires, ils sont peut-être pas à côté, ils sont peut-être à l'autre bout de la fac, on sait pas trop. Et ces gens parlent pas beaucoup. Ceux dans une même UE se parlent. Et encore, quand c'est pas entre contractuels. Parce que là, les contractuels, apparemment, ils parlent à personne.
Non, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas, en fait, des moments, des lieux de rencontres, d'échanges, alors qu'on penserait que dans l'éducation, c'est une chose importante aussi d'échanger son point de vue avec ses collègues. Je pense que c'est même primordial, quoi, pour avoir d'autres points de vue, pour réfléchir à comment on enseigne, à comment on peut s'améliorer. Donc, il y a aussi des enjeux liés à l'organisation même.
Et puis aussi, peut-être un autre enjeu qui est celui, peut-être, je sais pas, de l'enrichissement personnel des enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que certains manquent peut-être de culture. Je vois, par exemple, des enseignants de technologie du web qui ne connaissent pas la différence entre logiciel libre et l'expression libre de droit. J'ai eu cet exemple, une professeure de technologie du web qui m'a dit « Ah oui, vous voulez parler de ce logiciel libre de droit ?» Je leur dis « Pardon, non, je parle de logiciel libre. » Et en fait, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Du coup, je me demande peut-être que c'est l'éducation qu'ils ont eux-mêmes suivie, le cursus qu'ils ont suivi, qui leur a jamais appris. Ou, ils n'ont peut-être pas eu le temps de se mettre dans cette recherche-là. Donc, moi, je m'interroge si vraiment il y a besoin de faire de la formation informatique à des profs d'informatique, c'est qu'il y a un problème dans leur cursus.
Ça pourrait être intéressant. Hein. Il y a bien un cursus spécial pour... il y a un truc qui parlait d'essayer de faire du OpenStreetMap, éduquez-vous à la protection des données, ça c'est inscrit dans les logiciels, les programmes pour apprendre au lycée. Il y a un cours spécialement pour ça, j'avais regardé son programme, il y a des choses qui sont vraiment sympas. C'est beaucoup mieux que ce que moi j'avais eu quand j'étais au lycée, où il y avait le brevet informatique internet qui disait, voilà, vous savez faire un tableur, vous savez chercher, écrire un truc dans une page web, c'est bon, vous êtes calé. Et encore à l'époque, on se méfiait beaucoup plus de ce qu'on pouvait trouver sur Internet. On disait « Attention, c'est dangereux, publiez pas des infos sur vous, faites gaffe quand vous mettez des photos. »
C'est vrai, il y avait le principe de prudence qui...
Il y a une prudence qu'on ne retrouve pas du tout aujourd'hui. Il y avait même les gens qui étaient beaucoup plus sensibles à se dire « Tiens, moi je peux publier des choses, tout le monde a voix au chapitre. » Il y avait même des gens qui étaient extrêmement techniques et qui disaient « Moi j'ai un blog. » Il tourne sur mon ordinateur. C'est pas une autre machine quelque part qui le fait tourner. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui me disent « Mais dis-moi, comment ça marche le cloud ? Il y a vraiment un truc avec les nuages ? Il y a des fils reliés à des nuages ? Il y a des tours ? Comment ça se passe ?» Non, désolé, le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre.
C'est bien d'évoquer ça, parce que comme on le disait au début de l'émission, en fait, il y a les informations, il y a des sites, il y a des formations qui sont prévues pour les enseignants et pour les élèves. Peut-être que on fait pas assez pour que finalement on s'assure que la formation passe. Et il y a.
Oui, en fait, je voudrais réagir à une question. Qui est que, en fait, d'accord, il y a une petite différence entre logiciel libre et respect de la vie privée et des données personnelles. Sauf qu'on ne peut pas être sûr qu'un logiciel respecte vraiment la vie privée et les données personnelles, en tout cas nos choix en termes de données personnelles, si le logiciel n'est pas libre. La seule façon de pouvoir étudier le fonctionnement du programme, et peut-être même le modifier si jamais ça ne va pas, c'est que le logiciel soit libre. Donc c'est différent, mais en fait c'est complètement lié.
C'est le premier brique, c'est le brique nécessaire pour...
Tout à fait.
Donc notre échange est presque fini. On a encore quelques minutes et je voulais savoir si vous pouviez nous dire qu'est-ce que vous retenez de cette expérience, les aspects positifs, négatifs pour conclure notre discussion.
Bon, alors, dans les aspects positifs, je ne me concentrerai pas sur le négatif, je vais parler que de positif.
Très bien.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des alternatives. Elles existent. Elles sont partout. Simplement, ce qu'il faut faire, c'est les présenter, essayer de sensibiliser, dialoguer. En fait, le dialogue, c'est la première chose qu'il faut faire. Il ne faut pas s'énerver. Il faut commencer par dialoguer et présenter ce qui existe. Ensuite, quand on a peut-être un terrain d'entente, on en profite pour aller encore plus loin et présenter des choses encore mieux. On commence par le petit, dire voilà, on a la possibilité de faire ça pour un cours, peut-être pas pour tous. On présente des alternatives qui marchent pour certaines choses à faire pendant l'UE, mais on parle pas de tout de suite. Et petit à petit, si on voit que l'enseignant réagit plutôt bien, on peut lui présenter carrément la solution complète où on peut faire tous les cours sur des logiciels libres. Et s'il est d'accord, tant mieux, tout ira bien. Dans les alternatives qu'on a, on a évidemment celles qui sont déjà installées par les universités, ça existe, il y a des fois des ENT, des environnements numériques de travail, qui ont des systèmes de logiciels libres tout à fait utilisables pour les cours. Sinon, bah, on peut se tourner vers les chatons, qui ont des choses qui sont très bien. Moi, je n'ai pas envie de faire encore du prosélytisme, mais il y a Chapril. Hein. Chapril existe.
C'est la contribution de l'association April au collectif Chatons, en fait.
Voilà. Et sinon, bah, y a évidemment les services du CNRS qui fonctionnent aussi très bien.
Quelle sera ta prochaine démarche
Là, actuellement, je suis en train de lutter encore contre Zoom, contre une UE de technologie du web. Je leur ai proposé le service du CNRS, j'attends une réponse.
D'accord.
Bon. Puis si ça ne marche pas, je vais encore aller voir.
Tu me tiendras au courant.
Voilà. On remontera encore plus haut, c'est tout.
Ça marche. Baptiste, un petit bilan, point positif surtout.
Oui, alors en bilan, il faut toujours se poser des questions lorsqu'on inclut un intermédiaire technique dans son flux de travail. Lorsque les gens entrent dans une cage dorée, ce n'est pas parce que c'est une cage, c'est parce qu'elle est dorée. Et donc, c'est essentiel de se poser les bonnes questions quand on manque de temps, quand on n'a pas le temps de chercher beaucoup de choses. Il faut pouvoir s'entraider avec les autres. Et voilà, donc moi, je suis super content d'avoir déjà reçu beaucoup d'aide de la part des autres personnes que j'ai sollicitées. Et voilà, donc j'ai pu trouver le délégué à la protection des données. Et je retire de ça qu'il n'y a pas tant d'efforts à faire que ça pour obtenir des choses vraiment concrètes, des choses vraiment utiles dans la défense des libertés des gens et qu'on puisse un peu plus voir sur le long terme.
Pas mal la métaphore de la cage dorée.
Ouais, c'est pour ça que
je la réutiliserai.
C'est aussi important d'avoir des beaux logiciels pour attirer le chaland.
Très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aurez voulu répondre? Non, on me dit qu'il y a une minute de temps, donc je vous propose de faire un message, le mot de la fin, un message pour conclure notre échange en 20 secondes chacun.
Ok, un gros soutien à tous les gens qui bossent dans l'éducation, parce que c'est franchement pas facile, surtout en ce moment, et il y a des gens qui sont volontaires, je tiens à souligner que ça existe, des gens qui veulent vraiment faire du libre, parce qu'ils ont compris, ils sont sensibles à toutes ces valeurs.
Je crois me rappeler d'ailleurs que tu as trouvé une école qui voulait faire une démarche.
J'ai une école et d'autres organismes qui veulent mettre en place des choses libres.
C'est pas l'école de ta fille.
C'est pas eux, non, malheureusement.
Mais voilà, ils ont envie de se libérer, voilà. D'un point de vue informatique. Très bien. Adrien ?
Non, moi je crois que j'ai à peu près tout dit, mais on peut toujours reparler encore de Chapril et dire que on a des services qui peuvent aider, visio.chapril.org, qui permet de faire des visioconférences. Il y a encore chez les chatons BigBlueButton de Ethic IT qui permet donc de faire des visioconférences adaptées à l'éducation avec un tableau blanc intégré, possibilité de présentation, de partage d'écran, qui permet d'avoir beaucoup d'utilisateurs en même temps, ce que permet pas toujours le logiciel Jitsi. Donc ça aussi à conseiller. Mais si on veut vraiment être dans les clous pour l'éducation, c'est mieux d'utiliser les instances faites par les universités ou celle du CNRS. Celle du CNRS est parfaite pour ça. Je la conseille à tous les enseignants qui n'auraient pas ça dans leur université. Allez sur MathCNRS. J'ai envoyé l'adresse un peu plus tôt dans le salon web.
On va la rajouter dans la référence.
greennight.lal.cloud.math.cnrs.fr. Oui, l'URL est super.
Si je pense que quelqu'un a réussi à noter, on mettra les références sur le site de l'April et de la radio.
Merci beaucoup pour ce rétro d'espérance et pour vos démarches. Les logiciels libres et respectueux de données personnelles sont un peu loin d'être encore la norme dans les établissements éducatifs, mais on a vu ensemble que les choses commencent à bouger et il y a des alternatives. Et vous avez contribué à faire bouger les choses avec vos actions de sensibilisation. Donc merci à vous pour ça et merci d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à tout le monde.
Eh bien, écoutez, merci à vous trois. Donc, le sujet principal, c'était les démarches pro-libres dans l'éducation. Donc, avec Isabelle Avaney, Adrien Bourmeau, Baptiste Lemoine. Donc, on a déjà parlé de Chapril, mais je vais rappeler. Donc, chapril.org, vous trouverez différents services libres et loyaux. On a parlé de visioconf, d'audioconf, de messagerie instantanée pour sortir de WhatsApp, si vous voulez, pour gérer des événements avec Mobilizon. Et en plus, les deux animateurs de ce service sont en face de moi, hein, Baptiste et Adrien. Vous pouvez aussi créer un sondage. Et plus globalement, l'ensemble des structures qui proposent des services libres et loyaux, c'est Chatons avec un s.org, n'hésitez pas à y aller. Et pour finir, pensez à mes trois profs préférés, Coralie, Émilie et Cécile, qu'elles profitent bien de leur repos bien mérité actuellement.